RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. C'est bien de m'écouter quand même, hein. Parce que si vous ne m'écoutiez pas, je perderais vachement. Hein. Oh, vous rendez compte, hein? D'abord, le son de ma voix. Hein. Je vous la faute toutes les semaines, c'est normal, même plusieurs fois par semaine. Hein. Et après, les poèmes de Victor Hugo, de Prévert, de Méliès, de ceci, de cela, de Méliès, vous, de ce qui ne vous regarde pas. Voilà, bon. Eh bien, on va commencer par un ami qui est aussi un hydropathe. Ben, vous savez, le fameux club des hydropathes, hein. Les mecs qui sont malades avec de l'eau, ouais. Et alors c'est pour ça, ils en boivent, mais avec du pastis. Sinon, ils ne boivent pas d'eau, hein. Ça n'existe pas l'eau chez eux. Hein. Et alors, il s'appelle Bernard Subillot. Et je me souviens que je lui avais fait la maquette, parce que j'étais graphiste. Enfin, je suis toujours graphiste. Hein. En ce moment, j'ai combien ? J'ai un livre en cours pour une hydropathe aussi, d'ailleurs. Hein. Et qui vient d'ailleurs des fois à la radio, hein, Patricia Fougue. Non, Jougue. Non, bon, j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Bernard Subillot. Alors, le titre, c'est 3 multiplié par 8, Psychomachine. Et ouais, ça arrive. Cadence accélérée, énervante, dure, laborieuse, étouffante. Mal à s'y faire, mal à se taire. Pas de place pour le rêve, tous les jours sans trêve. Mort à la bas, avant trépas, mal au travail, vaille que vaille. C'est psychologique, dit-on. Alors ta chanson, halte là, psychomachine, toi et ta morphine. Alors la morphine, attention, la mort, qui est fine. Hein. Bon, parce que c'est vrai qu'à la radio, c'est pas pareil que quand on le lit. Hein, hein. Et même que des fois quand on est au lit. Mais on peut être au lit et écouter la radio. Hein. Voilà. Et on peut lire au lit. Hein. Et, allez, tout est cher aujourd'hui. C'est la chute au fond du puits. Essence, scolarité, médicale. Je ne sais pas à quelle époque il l'a écrit, mais c'est très, très actuel, je trouve. Hein. Nourriture, loisirs, coût fatal, salaire déminable, plus rien sur la table, changeons de société. Marre de faire pitié, naufragé sur un radeau, alors pas de cadeau. C'est psychologique, dit-on. Hein. Arrête ta chanson. Acte là, psychomachine. Toi et ta morphine, donnant, 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 patron riche et imposant, qualité, savoir-faire, mérite, meilleur trait, salaire. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes tous vaillants. Qu'à cela nous tienne, que le respect de l'ouvrier vienne pour une vie plus joyeuse, enrichissante et harmonieuse. C'est psychologique, dit-on. Alors, ta chanson, acte là, psychomachine, toi et ta morphine. Et voilà, ça fait écrit donc d'un livre que j'avais fait la mise en page au rythme des mots. Voilà. Et alors, ce livre a été édité. Oh, c'est pas ça le plus important. Hein. D'ailleurs, c'est même pas marqué. Comme ça, on a tout compris. Alors, Julos Bocarn. Bon, c'est vrai que je suis un peu tombé amoureux de ce mec, hein, au niveau de la poésie, bien sûr, hein, parce qu'il est mort. Donc, hein. Et ça s'appelle À vous, mes beaux messieurs. Oh, je sais pas s'ils sont tous beaux, hein. Bon, mais. À mon avis, c'est un jeu de mots, hein, parce que ça m'étonnerait qu'ils soient tous beaux. Hein. D'ailleurs, vous verriez ma tronche, moi je ne fais pas partie des beaux. Hein. Ah non. Mais ça ne me dérange pas, j'aime bien. Parce qu'il vaut mieux avoir de la gueule que pas du tout. Hein. Je vois mon technicien en face. Il est comme moi, il a une sacrée gueule. Oui. Et ça lui va bien, en plus. Hein. Allez, à vous, mes beaux messieurs. Celles qui font de nous des hommes sont des mères. Bah oui, ça c'est. c'est pas les tentes. Elles vont devant nous comme clarté des cieux. Ô mères, ne devez-vous point être sur terre? Alors ayez pitié des mères, beaux messieurs, que les nuages ne tuent pas les hommes. Bon, là, j'ai pas trop bien compris, mais bon, c'est du Bocarn, hein. Bon. Un enfant de 7 ans court dans les pâturages. Et par-dessus les bois vogue un son cerf-volant. N'ayez point connu ces jeux du premier âge. Alors ayez pitié, bons messieurs, des enfants, que les nuages ne tuent pas les hommes. Ben ouais, à chaque fois, il répète à la fin de sa phrase que les nuages ne tuent pas les hommes. Bon, ben, mais il faut bien, hein, c'est... Bon. Allez, en peignant ses cheveux, la jeune fiancée, au fond de son miroir, cherche un visage doux. Nous vous a-t-on cherché de même un jour passé ? Alors, ayez pitié, beaux messieurs, des époux, que les nuages ne tuent pas les hommes. Oh, quand on vieillit et que la vie atteint sa grève, on doit toujours penser aux souvenirs heureux. Vous aussi vieillissez, votre époque s'achève. Alors, mes beaux messieurs, ayez pitié des vieux, que les nuages ne tuent pas les hommes. Alors, ce ne serait pas un poème de lui, ce serait un poème de Nazim Hikmet. C'était traduit par Azaz Yurech. Et alors, ça a été mis en musique aussi par Julius Bocarn, parce que Julius Bocarn était aussi un chanteur et un musicien. Il faisait tout, quoi, sauf peut-être pas la vaisselle. Hein. Encore, on n'en sait rien. Bon. Peut-être qu'il avait une femme qui se tournait les pouces. Hein. Ah, ça arrive, ça. Est-ce qu'il était marié? On n'en sait rien. Est-ce qu'il avait des gosses? On n'en sait rien non plus. Enfin, on sait juste sa poésie de lui, c'est tout. On ne sait pas qui il est. Il est Julius Bocarn, poète. Voilà, un point, c'est tout. Là-dessus, on va passer, tiens, allez, il y a longtemps que je n'ai pas passé, mais bon, il faut bien, mes nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices, il faut bien qu'elles entendent un petit peu, Iron Butterfly. Figurez-vous que ce morceau, je l'ai entendu pour la première fois en 1970 au Maroc, dans une boîte de nuit à Tanger, figurez-vous. J'étais en vacances là-bas avec ma femme, et puis bon, c'était vacances, et puis on était jeunes, hein, en 70, j'avais 25 ans. Hein. Et donc, bon, on allait en boîte, c'est normal, hein, moi, j'aimais bien danser avec ma femme, le rock, le tango, le slow, le passo doble, enfin, ouais, toutes les danses qui se faisaient à l'époque. Hein. Le jerk n'existait pas encore. Et d'un seul coup, on entend ce morceau-là. Alors nous, on l'a dansé en rock. Et ça durait 20 minutes. On était crevés à la fin du rock. Et alors, quand je suis rentré en France, J'ai tout de suite été chez un disquaire et j'ai acheté le disque. Alors, c'était des vinyles à l'époque. Hein. Il n'y avait pas de CD-ROM et tout ça. Hein. C'était encore des vinyles. Et je l'ai toujours, mais alors bon, je l'ai scanné, c'est-à-dire que je l'ai enregistré et tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous en profitez. Voilà. Hein. Alors bon, moi, je ne vous ai pas mis les 20 minutes parce que c'est des morceaux qui sont les uns derrière les autres. Il y a à peine une coupure de 1 ou 2 secondes entre chaque morceau. Vous voyez ? C'est ce qui permet justement donc, d'avoir plusieurs fichiers numériques. Alors, je vous ferai écouter d'autres morceaux par la suite, de façon que vous ayez la totale. Hein. Je ne vous parle pas de totale, hein, le marchand d'essence, non. Je parle de la totale. Totale de Iron Butterfly. Je l'ai bien dit. Hein. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Qu'est-ce que tu me racontes, Patricia ? Que c'est pas comme ça qu'on dit ? On dit Iron Butterfly. Mais flou, c'est du français. Ah non, réfléchis un peu. Oh, c'est pas avec toi que je vais apprendre l'anglais. Hein. Oh, pas sûrement pas. Hein. Bon. Bon, mais je m'en fous de ne pas savoir l'anglais, moi. Moi, du moins que je parle bien le français. Enfin, le mieux possible. Hein, le mieux possible. Bon, des fois avec un petit peu d'argot, des fois quand on a bu un petit peu, bon, on mélange les mots, c'est normal. Bon, hein, on ne peut pas être parfait dans la vie. Hein. Bon. Alors, la vie multiple. Bon, alors c'est. Je ne veux pas dire que c'est un concurrent de ma revue Les Hydropathes. D'abord parce que c'est tous les 2 mois, alors que nous, c'est tous les mois. Hein. En plus, non, c'est pas tous les mois, c'est tous les 3 mois, c'est trimestriel, ouais. Et en plus, bon, ils ont eu la gentillesse de passer mes poèmes de temps en temps dedans. Hein. Il va au moment qu'il y ait toujours un poème dans chaque édition. Et alors, pas seulement moi, hein, Les Hydropathes, parce qu'au final, eux-mêmes, c'est édité à Bergerac. Alors, La Vie Multiple, ben, c'est comme une association aussi, hein. Mais seulement, eux, ils font partie aussi de notre association. Il y en a 3 ou 4 qui viennent chez Les Hydropathes. Alors, ils ne viennent pas pour nous copier, hein, parce qu'on ne copie pas un poète. On s'en inspire éventuellement, comme je fais avec Prévert. Bon. Mais sinon, ils ont une certaine personnalité. Et je vais vous lire un poème du principal de cette bande, qui s'appelle Daniel Malbranck. Et il a fait un manifeste de la poésie savoureuse. C'est par la saveur que le monde sera sauvé de toute la sauvagerie que notre temps génère. Dans la corbeille de fruits de l'amour et de la vie, plongeons sans façon, ni mesure ni regret. Coulument, gavons-nous du jus qui dégouline de la simplicité de vivre et de ses mâmes généreuses. Au miroir des rivières, admirons nos frimousses et nos torses nus, tout barbouillés de bonheur. Sauvons les carpes de race, muettes comme au paradis, de jouir de chaque jour qui vient, qui passe, qui s'en va. Soyons des poètes savoureux, devenons des poètes soifs. Voilà, waouh, soif. Moi, je dirais des poètes soif, qui ont soif, plutôt. Hein. Ça serait quand même plus logique, bon. Parce qu'un poète, il ne peut pas faire autrement que de boire. Il faut bien qu'il se réhydrate, comme on dit. Hein. Ben oui, c'est beau de parler, hein. Regardez, les hommes politiques, ils ont toujours une bouteille d'eau à côté d'eux. Hein. Pourquoi nous, les poètes, on n'aurait pas chacun notre bouteille de pinard? Bon, allez, arrêtons. Tiens, si on faisait un peu du Maurice Méliès, hein, pour changer un peu. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez connu Madame Bachelot, qui était ministre de la Culture à une époque, je ne sais plus si c'était au temps de Sarkozy ou de Hollande, ou de, je ne sais pas. Et j'ai fait un poème, c'était le 10 mai 2003, Bachelot retombe à l'eau. Ouais. La marée montante enfilait une dentelle noire. Grâce à ce prestigieux pétrolier qui arborait une certaine complaisance pour son pavillon de vagabond sans intention de la donner à réparer. Vous savez, la Momocadix, là, les bateaux qui foutaient tout leur gasoil ou leur pétrole dans la mer. Hein, et il y avait une marée noire. Hein, vous vous souvenez pas ça? Il offrait à chaque creux de vague une ombre argentée, lourde de conséquences et d'irresponsabilités. Les enfants ne jouaient plus avec des bateaux de bois, malgré ce jeu de dupes qui souillait les plages. L'amande douce sentait l'arnaque bien ficelée et le pétrole se reniflait à coups de dollars déjà pollués. Les chiens de mer savaient nager en allant plus vite que la loi qui traînait ses palmes à coups de pied de nez. Bachelot prenait l'eau pour du vinaigre, sans sa mère, avec une totale tranquillité, en coulant ses jours heureux sur la plage arrière d'un voilier à 3 mâts. Alors ça, c'est vrai. Hein. C'est plus que de la poésie, ce que je viens de dire. Hein. Ouais. Il est un batelier d'un hypothétique pays de Cocagne sur mer. Le bleu de ses yeux prenait sa couleur dans le noir des seins, par impuissance de le prendre par désir, de savoir bien faire. Voilà. Alors c'est un pastiche, en fait. Je vais pas dire un pastiche. Pastiche. Des marées noires qu'il y a eu plusieurs fois, hein, donc la Mamoukadix, il y en a eu d'autres, il n'y a pas eu que ça. Hein. Voilà. Et comme la mère Bachelot, je ne sais pas si ce n'était pas plutôt de ministre de l'écologie, je crois, il me semble, plutôt. Elle n'avait rien à foutre. Rien à foutre. Les pétroliers, ils n'ont même pas été punis. Hein. Ah non, non. C'est tout juste, on ne les a pas remerciés d'avoir coloré un peu la mer. Hein. Il n'y a que l'OPR qui n'a pas été coloré. Mais la mer, oui. Sacrément. Hein. Allez, tiens, un petit Victor Hugo. Hein. Bah oui, ça se fait. Et en plus, il est beau ce poème, j'adore. Il a été écrit en 1838, à Paris, et un mois de juillet. Mais où vont ces enfants? Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit? Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seuls, ils s'en vont travailler 15 heures sous les meules, des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement accroupi sous les dents d'une machine sombre. Monstre hideux qui marche et qui ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Ils travaillent, tous est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien lasses. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. Ô servitude infâme imposée à l'enfant, rachitis, travail dont le souffle étouffant, défait ce que fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts. Dans le cœur, la pensée, et qui ferait? C'est là son fruit le plus certain. D'Apollon, un bossu, de Voltaire, un crétin. Travail mauvais que prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère. Qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil? Progrès dont on demande, mais où va-t-il, que veut-il? Qui brise la jeunesse en fleurs? Qui donne en somme une âme à une machine et la retire à l'homme? Que ce travail haï des mères soit maudit, maudit comme le vice où l'on s'abattardit, ouais. Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème, ô Dieu, qu'il soit maudit au nom du travail même, au nom du travail, du vrai travail, saint, fécond, généreux, qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux. Eh bien, je peux vous dire que ça... C'est valable aujourd'hui, ça. Bon, les enfants ne travaillent plus. Bon, ça c'est déjà, enfin, du moins, en Europe. Hein. Mais regardez ceux qui sont dans les mines de cobalt et tout ça en Afrique. Hein. Et eux, ils travaillent. Hein. Comme ce que dit Victor Hugo. Hein. Sauf que là, ça se passe en Europe à l'époque. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon. Eh bien, écoutez, pour la peine, on va... Alors, attendez, c'est qui? Ah, Marc Vella. Alors, c'est du piano, mais... C'est pas du piano ordinaire. Parce que Marc Vella, il met sur ses cordes, bien sûr, c'est un piano à queue, hein, parce que sinon il ne pourrait pas accéder aux cordes, il met des galets, il met des tas d'engins pour modifier les sons. Et vous allez voir, ça c'est superbe. Thank you. Alors, vous voyez, vous avez entendu, hein. Alors, bon, moi, je l'ai vu, donc, je l'ai vu, ça fait quand même pas mal de temps, hein. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai acheté son CD, d'ailleurs, c'est en l'ayant vu. Il avait son piano à queue sur une remorque, tiré par une voiture. Et il était au centre des Tibétains, qui est près de Saint-Léon-sur-Bézère. Et c'était pour l'anniversaire du centre, hein, du centre. Et donc, il joue d'une main, et avec son autre main, il gratte des galets ou des bouts de fer ou des bouts de bois sur les cordes, naturellement en harmonie avec sa main qui est sur le clavier. Hein. Et voilà ce que vous avez vu ce que ça donne. Hein. Vous avez entendu ce que ça donne. Moi, j'ai vu ce que ça donnait, mais vous l'avez entendu seulement. Et je vais chercher, je vais essayer de voir s'il habite, normalement, il habitait Bordeaux. Je vais voir s'il joue encore. Hein, s'il joue encore. Bon, il était jeune, donc je pense qu'il est encore vivant de ce jour. Et de façon à voir s'il a fait d'autres morceaux pour vous les faire écouter. Hein. Voilà. Alors là, j'ai un bouquin, ça s'appelle « Histoire racontée au vieux château ». Et c'est de François Eva. Et ce fameux François Eva, eh ben, c'est un mec, il a pris un pseudonyme, et on fait, il s'appelle Jean-Pierre Ménard. Bon, c'est comme moi, si je décidais d'un seul coup, Maurice Méliès, de m'appeler Hercule Poirot, donc, par exemple, hein, ou Dagobert, ou pourquoi pas, comment il s'appelle, là, le bouffeur d'épinards, là, par exemple, hein. Comment, Popeye, hein, ouais, en plus ça m'irait bien, Popeye. Surtout que j'aime les épinards, en plus. Ah ouais. Alors, les épinards, le pinard, vous voyez, ça rime, ça va ensemble. Les épinards avec du pinard, c'est vachement bon. Hein. Bon, allez, arrête tes conneries, mon mot. Alors, il a un poème qui s'appelle « Parfum d'enfance oublié ». Alors, comme c'est des histoires racontées au vieux château, vous comprenez qu'il a été cherché dans le vieux château, ces fameuses histoires, ces contes. Hein. Nous n'avions pas l'eau courante. Nous allions été comme hiver remplir nos seaux au puits ou à la fontaine. Nos femmes lavaient le linge au lavoir, duquel montait le bruit qu'annonçait des battoirs. La cuisine, elle la faisait dans la cheminée. Point de frigo, mais des garde-manger. Le seau d'eau sur l'évier avec sa couad. Alors la couad, je pense que c'est la louche, hein, de l'époque, souvent en bois. On n'avait pas de salle de bain. On se lavait dans des bassines, des lessiveuses. Ça me rappelle ma jeunesse aussi, moi, hein, parce que chez nous non plus, il n'y avait pas de salle de bain. Hein. J'étais au septième étage d'un HLM. Il y avait juste une cuisine avec un lavabo. Il n'y avait pas de chauffage central, c'était la cuisinière à charbon. Vous voyez. On avait quand même le gaz à l'époque. Ouais. Et c'était rare. Hein. Alors, naturellement, la cuisine, bon, dans le frigo, pas de garde-manger, le seau d'eau pour arriver, hein, dans les bassines et les lessiveuses, personne n'était sale. On prenait soin de notre corps. Nous éclairions à la bougie pour économiser l'électricité et à la lueur du foyer pour l'éveiller entre voisins. En écoutant les légendes mystérieuses que contaient les anciens, histoires de revenants, de sorciers, de sorcières, de sortilèges, pas de WC, il fallait aller dehors. Dans des cabinets en bois, cache au fond du jardin et derrière une haie. Le travail était dur. Pas de tracteur, des bœufs, des charrettes, des faux, des passe-partout pour abattre les arbres. Le foin, les vendanges, les battages avaient plus besoin de bras que de machines. Pas d'argent, peu de dettes, on savait vivre. Avec ce qu'on avait, point de télé, de console, de jeux interactifs pour les enfants, mais ils savaient inventer des jeux, créer des jouets. Leur imagination tournait à plein régime. On était cowboy ou indien, avec arche, flèche, chevalier, enchanteur, mousquetaire ou gré. De nos imaginations nourries par la lecture, oui, on lisait très tôt. Hein. À cette époque, dans les familles, chacun avait sa place. Des anciens, au dernier né, on vivait ensemble, on travaillait ensemble, on vieillissait chez soi. Ne croyez cependant pas que ces temps-là étaient paradisiaques. La vie était dure. Hein. C'est simplement une vie à dimension humaine. Je l'ai connue. Il y avait certes des inégalités sociales, des gens malheureux. Sommes-nous mieux aujourd'hui ? Je ne suis qu'un témoin. Je rapporte les faits pour qu'ils restent en mémoire. Je pourrais vous parler de tant de choses, travaux, croyances, peurs, soirées, derrière des portes closes, des pièces uniques, loisirs, un jour peut-être. Voilà. Alors bon, moi, c'était pas tout ça, parce que j'étais pas à la campagne, hein, j'étais à la ville, hein, j'étais en pleine ville, hein, à Paris, dans le 14e arrondissement, à la Porte d'Orange, hein, c'était vachement connu. Hein. Vous savez, c'était à la limite du périphérique, hein. Et à l'époque, le périphérique n'existait pas, c'était la zone. Et il y avait beaucoup de gens du voyage qui s'installaient là avec leur... Alors à l'époque, c'était... ils avaient des caravanes, des trucs comme ça, hein. C'était pas des camping-cars, hein. Non. Et donc voilà la vie... J'allais à l'école avec une blouse grise, une cape et un béret noir, par exemple, vous voyez, comme ça se faisait beaucoup. Et des galoches, eh oui, des grosses chaussures, hein. Et presque été comme hiver. Enfin non, la cape, on la mettait pas, mais la blouse grise, on la gardait toute l'année, hein. Ah ouais. Et si vous faisiez des taches d'encre, parce que les taches d'encre, c'était un encrier qui était incrusté dans la table, qu'il fallait remplir toutes les semaines, hein. Et puis avec une plume et un porte-plume, hein. Vous savez, les plumes, ce qu'ils appelaient les plumes sergent-major, ouais. Alors vous faisiez une belle écriture avec des pleins et des déliés. Maintenant, le taper sur des touches, c'est pas beau, ça veut rien dire. C'est inesthétique, ça sent mauvais. Mais non, c'est pas possible puisque c'est pas de l'encre. C'est l'encre qui sent mauvais. Ben ouais, bon, allez. Allez, pour la peine, tiens, je sais pas quelle heure il est, mais on va pas tarder à... Allez, on va faire un troisième... Non, on n'a même pas le temps, c'est fini déjà. Vous vous rendez compte? Je parle tellement qu'on n'a même plus le temps de passer de la musique. Oh là 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 là, il va falloir que je me calme. Hein. Ça ne va pas, ça. Allez, je vous dis au revoir. Et je vous promets que je reviendrai bientôt.